Parlons sport sur RTVFM.
RTVFM.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue sur RTVFM, la radio qui parle de sport le lundi soir. Avec ma coéquipière Valérie.
Bonsoir, ravie de te retrouver en forme.
Ben ouais.
Comme tu m'as dit tout à l'heure, tout neuf, tout beau.
Théo, notre tech, salut Théo.
Salut Jean-Yves.
Et puis ce soir notre invité, on reviendra avec lui plus longuement, c'est Philippe Roux. Philippe Roux, si vous le connaissez pas, c'est le couteau suisse du judo dans la région. Son titre officiel, c'est directeur technique de l'US Entraigue Judo, mais il a plein d'autres casquettes. On reviendra avec lui longuement sur ses différentes casquettes et ses différentes missions. Dans cette émission, on parlera aussi de rugby à 13, on va parler de hand, on va parler de basket, je suppose, Valérie.
Tout à fait, quelques résultats de hand, de basket.
On parlera aussi de rugby à 13 fauteuil, puisque nos amis du SOA recevaient ce week-end, et malheureusement, ils ont reçu. Ah. Et puis, on terminera par un coup de cœur, un coup de gueule, il y aura les deux ce soir. On aura au téléphone notre ami Jérôme Alonso, comme d'habitude, qui viendra nous raconter un petit peu son match d'hier, enfin, le sien non, mais celui de ses joueurs. Qui se sont brillamment qualifiés pour la Coupe de France Elite 2 de rugby à 13 aux dépens de Toulon.
Oui. Voilà. Quart de finale,
quart de finale, voilà. On en reparlera plus longuement avec Jérôme tout à l'heure aux alentours de 18h40. Mais tout de suite, c'est notre invité du soir.
Voilà. RTV Sport, l'invité du soir.
Tu vois, je t'avais dit qu'il y avait une jingle, Valérie.
Oui.
L'invité du soir, eh ben, c'est donc Philippe Roux. Philippe Roux, le directeur technique donc, du judo Entraigue.
Oui, bonsoir.
Salut Philippe. Accessoirement, tu as aussi plein d'autres casquettes, on va y revenir. Tu entraînes des champions, tu vas nous parler un petit peu de tout ça très vite. Raconte-nous un petit peu justement tes différentes missions dans le judo régional et même national, non ?
Départemental et régional. Voilà, donc moi je suis prof de judo en Entraigue depuis 89, donc ça fait une trentaine d'années. Et depuis 94, je suis responsable de l'arbitrage dans le département, donc je forme les arbitres, les commissaires. Et depuis la dernière Olympiade, je suis responsable sportif du PACA. Donc tout ce qui est qualification au niveau national, les stages, les tournois et tout ce qui va avec.
C'est toi le boss du judo en fait ?
Non, il y en a beaucoup qui bossent autant que moi. Hein, parce qu'il faut être nombreux pour que ça tourne. Parce qu'en PACA, on a vraiment un très haut niveau en judo.
On te connaît principalement aussi pour être l'entraîneur de deux champions, notamment Priscilla Lézé, qui est... championne de France.
Alors, championne de France, para. Elle est.
Para judo.
Para judo. Donc, malvoyante, elle est. Et elle fait vice-championne d'Europe. Et elle fait 7 au monde cette année.
Et aussi Léo Di Nicola.
Léo Di Nicola, qui est vice-championne de France à moins de 55 kilos, valide, junior.
Voilà. Sympa pour un petit club comme Entraigue, enfin, qui n'est pas réputé pour être une fabrique à champions.
Ouais, si, quand même. Ça fait des années, puisqu'on est à 43 médailles au championnat de France, hein, le club. Deux titres de champion d'Europe, une place de 2, une place de 3 aux Europes, une 7e au monde. Et Priscilla, qui est toujours en course pour les Jeux, malgré sa blessure au genou, elle s'est fait opérer aujourd'hui. Et donc, elle est bien placée au niveau classement. Il reste 2 compètes. Si elle ne se fait pas passer, en juin, elle reprend, ça devrait être jouable.
Comment on vit une blessure comme ça dans une année pré-olympique, ça doit rendre fou en fait. Pour ta championne déjà, et même pour toi, l'entraîneur que tu es, enfin, on s'était déjà rencontrés il y a quelques temps, et déjà il y a 2 ou 3 ans, tu parlais déjà de l'éventualité de faire les Jeux. Là, on y est presque, et Priscilla se pète juste avant les Jeux.
Bon, après, c'est le jeu, hein, mais ce qu'il y a de bien avec cette petite, c'est qu'elle ne se pose pas de questions, quoi. C'est bon, je suis blessé, et alors, quel est le problème ? Il n'y en a pas. Elle a fait ce qu'il fallait avant, là, elle a fait l'opération, je pense qu'elle va faire ce qu'il faut après, on va croiser les doigts, qu'elle ne se fasse pas doubler sur la ranking list. Hein. Voilà, c'est.
Comment ça marche pour te qualifier au jeu ? Il y a une. Il y a un classement des meilleurs judokas dans sa catégorie.
Il y a une ranking list qui a débarré après les championnats du monde. Aujourd'hui, elle est sixième et c'est les huit premières qui sont qualifiées. Parce qu'après, il y a deux quotas pour celles qui sont aveugles et un quota pour la japonaise qui est organisée. Donc, ça fait 11 filles qualifiées. Et donc, elle est sixième. Et les deux filles qui sont derrière elle sont assez loin. Et on va croiser les doigts qu'elles fassent pas de super résultats sur les deux prochains tournois qui c'est en mars et en avril. Et si elle se fait pas doubler, comme elle reprendra d'après le chirurgien qui lui a dit qu'elle pouvait reprendre le judo en juin, il va lui rester 2 mois et demi pour se remettre en route, quoi.
Ouais, pour se réathlétiser, pour reprendre du rythme, parce qu'on n'a pas l'impression vu de l'extérieur, mais le judo c'est un sport éminemment physique. Enfin, il faut une énorme condition physique pour combattre,
combattre. Mais le truc, c'est que bon, elle est très volontaire, donc elle se pose pas de questions. Moi, je m'en pose pas non plus parce que je pense que c'est jouable. Et elle m'a montré plein de choses et je pense qu'elle peut le faire.
Il y a un moment que tu la suis déjà, non ?
Ah ben, elle avait 2 ans et demi quand elle a commencé avec moi en trek, donc.
Et elle a ?
Elle a 20 ans aujourd'hui.
D'accord.
Donc, je commence à la connaître. C'est une gamine que vraiment, quand elle a envie, ça va au bout. Hein.
C'est une pépite, quoi.
Ouais.
C'est le cas de dire.
Franchement, ouais.
Ouais, et bizarrement, quand tu la croises, t'as l'impression que.
On dirait un bébé presque.
Ouais, on dirait un gros bébé qui a presque pas de sang, en fait. Hein, quand, enfin. Tu peux la croiser, elle te paraîtra complètement amorphe et tranquille. Ouais.
Elle est sereine, elle est bien dans sa peau.
C'est ça, ouais.
En fait, c'est une véritable machine, quoi.
Mm. Moi, je voulais juste revenir sur toi, sur comment tu en es venu au judo. Est-ce que tu étais joueur, toi, enfin joueur.
Ouais, moi, je fais de la compétition, ouais, tout à fait. Ben, moi, je suis venu au judo, j'avais 5 ans par un oncle, voilà, quoi. Et puis, bon, après, j'avais mon meilleur copain qui faisait du haut niveau, et donc l'un dans l'autre, voilà, ça m'a plu. Ça m'a plu. Et puis bon, c'est surtout 30 ans d'enseignement, ça commence à faire.
Parce que c'est pas facile d'être quand même d'être à la tête d'une je veux dire d'un réseau pour créer des arbitres, pour faire des arbitres, parce que c'est difficile à trouver un arbitre quelle que soit la discipline, hein.
Ouais, toujours ce problème. Nous dans le Vaucluse, par rapport au département de la PACA, on est vraiment le seul département où vraiment on a une bonne dynamique. Bon, après moi, j'essaie de. Pour moi, quand on arbitre, il faut que ça soit un plaisir et un loisir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les mecs viennent avec la boule ventre, la pression, parce que vous savez, hein, pour être le meilleur arbitre, on est noté, on est jugé. Ben, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je sais que les gens ils viendront en service et on les aide à progresser. On n'est pas là pour les juger, au contraire, on est là pour les aider à progresser et non pour leur dire ouais, tu n'es pas bon, tu n'avances pas, tu t'es trompé. Non, non. Il faut que les gars ils viennent se faire plaisir. C'est la première chose. Et après, on les fait avancer. Et j'ai formé les 3-4 arbitres nationaux, des arbitres interrégionaux, régionaux, et franchement, ça tourne super bien. Quoi.
Il a répondu à ma question aussi, je voulais savoir s'il y en avait au niveau national.
Ben, moi, j'étais 11 ans arbitre première division, hein, donc j'ai arbitré à l'époque Douillet, Riner. Bon, j'ai pris ma retraite il y a 2 ans, quoi. Parce que ce qui est embêtant au judo, à 45 ans, on ne peut plus être international. Vieux. Voilà, on ne peut plus devenir international. Et moi, j'ai passé, à mes 40 ans, j'ai été arbitre national première division. Et donc, du coup, je ne pouvais pas présenter à l'international. Bon, après, je me suis fait plaisir quand même, hein, au niveau national. Puisqu'on a pu arbitrer des Coupes d'Europe et des Coupes qui se passaient en France, comme Lyon, ou le tournoi national cadet. Qui est plus que national, puisqu'il y a tous les pays qui viennent. Par exemple, là, ce week-end, il y avait Aix, il y avait le Japon, la Hollande, tout ça, il y avait des gros pays, quoi.
Alors, pour te suivre un peu sur Facebook, là, t'es toujours en vadrouille, toujours en compétition.
Tous les week-ends.
C'est un truc de fou, je sais pas comment tu fais pour tenir entre les compétitions, l'arbitrage. Tu me parleras aussi de ça dans quelques minutes, mais t'as créé un truc, un pôle dans le Vaucluse pour.
Avec des collègues qui ont des bons clubs comme la JP, Villeneuve, le Fuji. Fuji, c'est un regroupement.
Parle-nous de ce projet-là, c'est le Vaucluse Judo Grand Avignon, c'est ça ?
Oui, c'est ça, ouais. Et en fait, c'est essayer de regrouper nos meilleurs cadets, juniors et seniors pour faire des équipes et surtout pour faire une grosse dynamique. Parce qu'on fait des entraînements de masse à peu près une fois par mois. Et là, par exemple, c'était samedi soir. Donc samedi, j'étais à Aix et le soir, j'étais à Orange. Et donc, on regroupe tous nos benjamins minimes qu'il y a des juniors seniors ensemble. Là, il y avait plus de 100 personnes sur le tapis. Et c'est pour créer une dynamique. Bon, après, c'est vrai que pendant des années, moi, dans mon club, j'ai ce qu'il faut. Mais ce qui est bien, c'est la mixité, quoi, quand même. La mixité des autres.
On apprend des autres.
Avec les autres, ouais.
Des autres entraîneurs, même des autres.
Ouais, tout à fait. Mais moi, j'apprends tout le temps. Moi, je détiens rien du tout. Au contraire, hein, moi, plus je peux en apprendre, mieux c'est. Plus je croise de gens, plus j'apprends quelque chose. Voilà. Et j'essaie d'être le plus à l'écoute. Et c'est peut-être pour ça que ça marche.
Il y a aussi un truc qui est une des particularités d'Entraigues, c'est une espèce d'association avec l'OM Judo, c'est ça ?
Oui, tout à fait, là, j'en ai trois. Donc Léo Di Nicolas.
Alors, comment ça se passe concrètement, là, cette association avec l'OM ?
Ben, c'est pareil, c'est pour créer des équipes, hein, faire des équipes fortes. Hein. Par exemple, avec les cadets, on a fait vice-champion de France là, il y a quoi, 3 semaines. On avait une équipe junior fille, bon, elles font rien cette année, l'année dernière elles avaient fait vice-champion de France. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est pareil, de créer une dynamique. Bon, après nous on est un peu loin, donc si aujourd'hui il y a une dynamique dans le Vaucluse, pour moi c'est plus intéressant, quoi.
Comment ça se passe en fait, c'est les gros clubs comme l'OM, ça, c'est devenu un club omnisport l'OM, comment ça se passe, c'est eux qui vous demandent d'intégrer le giron et de renvoyer vos meilleurs
Judoka. Non, en fait,
j'ai du mal à comprendre.
On est une association indépendante, hein, de l'OM Foot, mais sauf qu'on leur a demandé si on pouvait avoir leur image, parce que bon, il y a une image, hein, l'OM, hein, c'est ça, hein, c'est une image dans le sud. Et donc, ils ont dit OK, bon, ils nous ont aidé à avoir des financements qui ont permis de pouvoir continuer à développer, parce que ça s'étend quand même. Hein, là, on est dans la 8e année, et je vous raconte pas tous les titres nationaux, équipes ou individuels qu'on a eu, voire européens.
Et du coup, voilà. Tu interviens comme entraîneur sur le club de l'OM, non ?
Non, parce qu'en fait, chaque athlète reste dans son club. Ça change rien. C'est juste une licence, quoi.
Juste pour les compètes qu'il est engagé avec.
Ouais, c'est ça. Et en fait, on met. Alors, les critères, c'est à l'OM, que ce soit en cadet ou en junior ou en senior, il faut être qualifié pour les championnats de France pour pouvoir être dans ce club.
D'accord.
Mais première division, hein, par contre. Un gamin qui a fait les France 2e division peut pas être dans le club de l'OM.
Oui, c'est l'élite, quoi, en fait.
Voilà, c'est
un club d'élite, entre guillemets.
Voilà, tout à fait, c'est ça, qu'un club d'élite.
Voilà. Tu prends les meilleurs, tu les mets dans ce club-là pour être sûr que ce club soit.
Ça crée une synergie en plus. Ça. Et puis j'imagine que dans ton club, ça doit motiver les gamins qui ont cette carotte aussi.
Ah, c'est ça, exactement. Et bon, là, depuis l'année dernière, il y a le PSG judo, et je peux vous dire, c'est tendu, quoi. Ils n'ont pas les mêmes moyens que nous, on va dire.
Pas encore.
Non. Ah, nous, on est loin d'avoir leurs moyens financiers, quoi. Malheureusement, quoi.
On voit les différences aussi, même sur le judo. Alors, je sais qu'on le voit au hand, par exemple, où à l'époque, il y avait l'OM Bitrol au hand. Et ça se tirait déjà un peu la bourre avec Paris, et c'était pas aussi gros Paris. Est-ce que sur le judo c'est pareil ?
Il y a vraiment une grosse différence.
Ouais.
Ben, eux ils ont tous les numéros 1, hein, on va dire. Ils se payent, entre parenthèses, tous les numéros 1 en judo, hein, et voire les numéros 2.
Riner est là-bas, hein, c'est ça ?
Tout à fait. Donc c'est encore plus facile pour eux, quoi, parce que là il y a une image.
Bah oui, et puis ne serait-ce que le nom, ils ramènent tout le monde.
C'est ça. Tout c'est à fait. Tout,
ouais. Et vous avez pas pas d'équivalent Riner, forcément, parce que.
On avait des filles fortes là qui sont parties au PSG d'ailleurs. Un garçon très fort aussi, des jeunes qui ont fait champion de France, qui sont partis au PSG. Donc l'année dernière ils étaient mais cette année ils sont PSG, quoi. C'est le jeu financier, on va dire, quelque part.
On retrouve.
Mais ils sont pas payés normalement, ces gamins. Enfin, ils ont des primes.
Ils ont des primes et surtout des défraiements, quoi. Parce que généralement c'est des jeunes qui sont à l'INSEP. Donc on leur prend en charge tous leurs frais de déplacement, le TGV, tout ça, et voilà, quoi. Plus les primes, sauf que les primes c'est pas les mêmes au PSG.
Voilà, on en revient toujours à la même chose.
On retrouve ces histoires d'argent. Enfin, moi j'avais l'impression de l'extérieur que le judo c'était une espèce d'endroit protégé où on parle d'argent pour le top 4 par exemple, mais j'avais pas l'impression qu'on me parlait d'argent pour les autres, mais oui, finalement.
Oui, mais en fait, c'est surtout ce qui est première division. Bon, ça démarre un peu en junior, l'argent, on va dire. Parce que un jeune qui est champion de France junior, aujourd'hui, on sait très bien qu'il va être super fort en senior, quoi. Donc, ils les prennent en junior pour pouvoir les préparer pour les équipes supérieures senior, quoi. Première division, parce qu'après nous, il y a les Coupes d'Europe.
On en revient toujours à la même chose au niveau de tous les clubs, on va dire locaux, où leurs athlètes, leurs meilleurs athlètes partent que ce soit à Paris, bon, pour toi, pour le judo, ou à Marseille, mais c'est vrai que ça part parce qu'on n'a pas les moyens au niveau de notre région, enfin de notre, on va dire, département, garder tout, bah, nos pépites, hein, ce que je disais, hein, on peut pas les garder.
La seule que j'arrive à garder, c'est Priscilla, hein, parce que il y a pas le même enjeu financier encore. Il y a pas d'enjeu financier. Il n'y a pas d'enjeu financier, non, parce que il n'y a pas d'équipe
ça reste pas très médiatisé, le para-judo.
Non. Bon, après, nous, au niveau du club, on a tout fait pour la garder aussi, hein. C'est-à-dire qu'on y a fait un contrat professionnel, là, pour qu'elle passe son BP judo. Donc, elle est employée, on la rémunère tous les mois. Voilà, c'est... Voilà, on l'aide comme on peut pour pouvoir la garder, parce qu'après c'est sûr qu'il y a une paire de clubs, alors pas PSG, mais par exemple l'USO qui aurait aimé la récupérer. C'est un gros club, l'USO Orléans judo.
D'accord.
Et surtout en para.
D'accord. Et eux, ils attirent les meilleurs athlètes para pour briller sur les championnats d'Europe notamment. Et...
Voilà, c'est ça. Mais pas en équipe, en individuel, parce qu'on peut pas faire d'équipe encore. Hein. On peut pas faire d'équipe.
Et peut-être que Priscilla veut plus rester auprès de sa famille ici, et puis c'est quand
oui,
même.
Oui, tout à fait. Ouais,
voilà.
Tout à fait.
Et puis avec toi, si tu l'as depuis 2 ans et demi, enfin qu'elle a la.
Ah, mais c'est un vrai, c'est une véritable.
Voilà, donc tu es un second père, entre guillemets, quoi.
Ouais, c'est ça.
Ouais, non, mais il faut. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion de les croiser tous les deux, il faut les voir. Enfin, c'est.
Père-fille.
Ça y ressemble beaucoup, en tout cas.
Ouais, mais c'est normal, il y a un lien qui s'est créé quand même. Donc, en 18 ans, il y a un lien qui se crée.
Largement, ouais. D'accord. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours fonctionner comme ça, c'est-à-dire que moi, un gamin, du moment qu'il est au judo, c'est comme si c'était mon fils, quoi. Je vais tout faire pour que lui réussisse. Voilà, s'il me donne les moyens de l'aider, je l'aiderai. S'il me donne pas les moyens, après il prendra une autre route, hein. Mais moi, personnellement, donner le maximum pour qu'il réussisse.
On revient dans 3 petites minutes. On va faire une petite pause musicale. Musique, Théo. Oh baby, I love your way. Every day, yeah, yeah.
I wish I could buy one out of
Parlons Sport sur RTV FM.
Allez, on est de retour ici au studio pour la deuxième partie de l'émission. Théo, tu t'es arraché sur le choix musical, là, non ? On revient plus sérieusement avec notre invité, Philippe. On parlait en off des raisons pour lesquelles il y a une vraie suite dans la formation, dans le judo. Quand on vient de l'extérieur et du rugby, en ce qui me concerne, on est toujours un peu ébahi de voir que depuis 20 ans maintenant, quasiment, les champions succèdent aux champions. Il y a des titres aux Jeux Olympiques, il y a des titres aux championnats du monde. Quand pour une raison ou pour une autre, il y en a un titre en moins, on a l'impression que c'est la fin du monde, alors que il me semble qu'au dernier championnat du monde, il n'y avait pas eu beaucoup de médailles, mais il y en a eu suffisamment. Et ouais, il y en a eu 6, mais on a l'impression que la Fédé était en échec, alors que de l'extérieur, les commentaires qu'on avait, c'était il y a eu que 6 médailles, alors que ça
l'échec c'est surtout chez les garçons, c'est-à-dire que bon, les filles ça brille, 3 championnes du monde, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux, mais chez les garçons il n'y a eu qu'une seule médaille, il y avait pas Rineur en plus, donc c'est Clergé qui fait 3. Ils sauvent un peu, on va dire, les garçons, parce que le souci aujourd'hui c'est plus chez les garçons que chez les filles, quoi.
Comment ça peut s'expliquer, ça? Rineur, ça masque un peu, c'est l'arbre qui cache la forêt.
Oui, non, mais c'est qu'à mon avis, il va falloir faire des choix différents au niveau de la dynamique et de l'entraînement, qui est en train de changer et qui est en train de refaire. Bon, c'est sûr que sur les prochains jeux, ça va être tendu chez les gars, mais je pense que la fédération a pris un gars très bien qui s'appelle Stéphane Trénaud et qui va, je pense,
ancien
relancer.
Champion du monde,
ouais, ancien champion du monde. Qui, je pense, qui sera dans la bonne dynamique. Et bon, j'ai discuté pas mal avec lui et je pense qu'on va aller dans le bon sens. Parce qu'il y a des bons jeunes quand même, hein, chez les garçons. Après, ça s'est resserré, hein. Il y a beaucoup de grosses nations comme l'Ukraine, les Ouzbeks, tout ça. C'est impressionnant, les mecs.
Et de l'Est, là,
ouais, c'est super costaud, parce que même les Japonais se font bouger. Hein, ils se font bouger. Hein, ils se font bouger. Les Russes, tout ça, c'est phénoménal.
Et est-ce que on parlait de Rineur tout à l'heure, mais est-ce que Rineur, c'est pas aussi chez les garçons le mec qui a un peu tout masqué et qui a vampirisé les énergies presque, qui a focalisé tout autour de lui, et du coup...
Oui et non, parce que quelque part il a une vie en dehors de la fédération, c'est-à-dire que, je sais pas si vous le suivez sur Facebook, il s'entraîne à part, il a son coach à part physique, il a ses partenaires à part, on dirait presque un athlète individuel, vraiment.
Il a créé sa propre structure.
Ouais, on va dire c'est ça, c'est plus ou moins sa propre structure, puisque quand il se déplace sur l'INSEP, il a vraiment ses horaires, ses machins, c'est vraiment séparé, quoi. Après, il faut faire les bons choix. Je pense qu'il faut faire les bons choix et ils ne sont pas toujours bien faits. Et je pense que ça va changer. Je pense que ça va changer.
Mais au quotidien, quand même, il y a une vraie cohérence. Tu disais que toi, par exemple, tu passais ton temps à aller chercher des infos des autres coachs. Il y a un vrai échange qui se fait. Et c'est des choses qu'on ne voit pas nécessairement dans d'autres sports où les types, ils ont leur propre vision de ce que doit être... leur façon de jouer, leur façon de combattre. En natation, par exemple, on voit pas ces échanges où on voit des mecs qui s'entraînent dans leur structure. Il y a pas ces échanges. On empêche les entraîneurs de club d'accéder aux compétitions internationales en leur disant non, mais c'est pris en charge par. Alors que chez vous,
ouais,
il y a une vraie dynamique.
Ouais, tout à fait,
on vous laisse, toi, sur les championnats du monde. Je pense que tu as le droit d'aller voir tes
ah ben, Priscilla, quand tu as fait les championnats du monde ou les championnats d'Europe,
c'est toi.
Je suis allé, c'est elle est coachée par la fédération, elle est emmenée, suivie par la fédération. Mais ce qui est bien, c'est que c'est ouvert, on peut aller au contact de l'athlète. On peut aller au contact sur les Europes, j'étais avec elle, près de elle, on a pu discuter, échanger, pareil sur les mondes. Bon, les jeux, ça sera plus compliqué parce que les jeux, c'est vraiment, c'est cadré, c'est difficile d'avoir des places, de rentrer. Même les entraîneurs nationaux, ils se passent les badges pour rentrer, c'est un truc de fou. Hein.
D'accord.
Les jeux, c'est vraiment spécifique, hein. C'est vraiment compliqué. Mais moi, je trouve ce qui est important, c'est que nous, dans le judo, par exemple, on a le pôle espoir et le pôle France, c'est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire qu'on peut rentrer, monter sur le tapis avec eux, échanger. Avec les cadres techniques, suivre nos athlètes, ça c'est génial, quoi. C'est génial.
C'est aussi ce qui explique que les générations se renouvellent et que Il y a une vraie diversité dans le.
Ouais, une grosse mixité de tout sur le tapis. Mais en plus, moi, je suis toujours à l'écoute. J'essaie un maximum d'écouter, de voir ce qui se passe parce que ça évolue, ça change sans arrêt, ça change sans arrêt, sans arrêt. En plus, le règlement change presque tous les ans, voire tous les 6 mois.
Ah ouais.
Donc, il y a des adaptations qui sont compliquées.
C'est vrai, on a l'impression pourtant que c'est un sport super traditionnel où les règles sont immuables depuis.
Non, le règlement d'arbitrage, c'est. Chaque fois qu'il y a un responsable national qui change,
t'as le règlement qui change. Un nouveau truc.
Pour marquer leur empreinte.
Laisser une trace.
Ouais, c'est ça.
Ça t'inspire quoi?
Moi, rien de spécial. Moi, quand tu parlais, je pensais au ce que je regarde sur la chaîne L'Équipe. Je vais faire un peu de pub. Souvent, il y a du judo. Ouais. Et je vois que les judokas sont sanctionnés quand ils ne vont plus au combat, parce que c'est vrai que maintenant tu les vois toujours se faire lâcher, s'écarter, tourner et pour éviter de se faire attraper
et tombe rapidement.
Oui, maintenant, tant mieux, parce que c'est vrai que t'as plus envie de regarder quand c'est comme ça.
Tout à fait. En fait, aujourd'hui, le règlement il est parti dans le sens on ne doit pas empêcher de l'autre de produire du judo. Donc si j'empêche l'autre de produire du judo, je dois être sanctionné. Voilà. L'idée c'est ça. Voilà. Revenir au judo, revenir au hippo.
Voilà. C'est quand même plus agréable de voir quand il y en a un qui t'accroche, qui essaye de faire. C'est vrai.
Ouais, c'est son judo.
Voilà,
qui essaie de produire son judo. Tout à fait.
Après, voilà, c'est pour ça quand tu parlais, je pensais tout ça. Hein. Je revoyais un petit peu tous ces athlètes et tout.
C'est pour ça que le règlement change souvent, parce que c'est l'image qu'il y a de l'extérieur qui nous permet justement de corriger et de faire avancer les choses. Hein, de faire avancer les choses.
C'est clair que des fois, quand on n'est pas des vrais initiés, moi je connais un petit peu mais très peu finalement, et des fois on a pu s'ennuyer à avoir des combats où les types se tournaient autour pendant 3 minutes.
Même moi qui fais du judo tout le temps, des fois je m'ennuie aussi, il faut pas rêver. Et justement le règlement FIJ il est bien, mais celui qui a fait la Fédé aujourd'hui pour les 2e et 3e division, il est encore mieux quoi. Ça serait bien que la Fédération Internationale un jour se regarde le règlement qui a été fait depuis l'année dernière.
Du coup, vous coach, ça vous oblige à constamment pareil être en éveil et à vous adapter.
C'est ça, tout à fait. Ouais.
Et du coup, à former des nouveaux entraîneurs,
Ouais, moi je vois sur Entraigle, là, j'ai mon gendre, franchement, qui est dans la bonne dynamique, qui va dans le bon sens, plus la petite nouvelle là qui vient nous filer la main. Non, franchement, et puis. Ils ont compris qu'il fallait être à l'écoute, regarder un maximum à droite, à gauche, échanger, voir ce que font les autres aussi.
On est toujours envieux de ce qui se passe dans le judo. On parle des valeurs du rugby, mais les valeurs du judo, je trouve que déjà, c'est deux sports qui sont relativement proches.
Très proches.
On voit souvent des mecs faire les allers-retours. On en connaît, toi et moi, on en connaît.
Tout à fait. Ouais.
C'est un peu la même dynamique, il y a ces mêmes valeurs de combat, de respect.
C'est ça, ouais.
Et des types comme toi qui transmettent ça par l'entraînement, par la formation.
Moi, je me rappellerai toujours quand je suis arrivé en Treg en 89, j'étais MJC. Et après, en 94, j'ai monté ma section, mon club carrément, qui s'appelle l'USO aujourd'hui. Et à l'époque, tout le monde me disait ouais, t'as vu le rugby? Le rugby, j'ai vu, pour moi, c'est un exemple. Et aujourd'hui, je pense que si là où j'en suis, c'est parce que je les ai pris en exemple. Et je les enviais pas. Au contraire, ça m'a motivé, quoi. Ça m'a motivé. Je les jalousais pas, rien du tout. Au contraire, c'était une image qui m'a permis de développer le club dans le sens où il est aujourd'hui.
Parle-nous de cette. On l'a vaguement évoqué tout à l'heure, mais le Vaucluse Judo Grand Avignon, justement, ça a obéi un peu à ce que tu disais là de l'échange, se remettre perpétuellement en question.
C'est ça. Et en plus, franchement, quand on a monté l'association, on s'est fait un règlement intérieur tous ensemble, et on avait tous les mêmes idées de valeurs et d'esprit, justement, qu'il y ait un maximum d'échanges et que tout le monde puisse avoir sa chance, quoi.
Comment on fait pour je connais des coachs de différents horizons, mais comment on fait pour arriver à faire que tout le monde, vous devriez être presque concurrent finalement, parce que vous vous affrontez dans les différents championnats, et malgré tout vous arrivez à travailler ensemble. Comment on arrive à goupiller ce truc-là,
cette synergie?
Alors, ça laisse, enfin, encore une fois, pour moi qui viens du rugby, ça laisse rêveur, parce que quand on croise le coach d'une autre équipe, et quelle que soit la catégorie d'ailleurs, on est toujours en train de préserver ses schémas de jeu, préserver ses... Et vous, là, ça y est, vous êtes concurrents et vous mettez tous ensemble, vous travaillez tous ensemble.
Parce que si à un moment on ne se regroupe pas, c'est la mort du judo dans le Vaucluse, quoi. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que si chacun fait son petit truc dans son coin, ça ne pourra pas aller au bout. Ça ne pourra pas aller au bout. Moi, ça fait depuis 94, j'envoie des gamins au Pôle Espoir ou au Pôle France à Marseille. C'est que quelque part, j'avais besoin d'aller chercher quand même pour faire avancer mes athlètes. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus dur d'être en Pôle Espoir ou en Pôle France. Et donc du coup, comme on se voit tous les week-ends, on s'est dit, mais pourquoi on ne se regrouperait pas, quoi. Bon, c'est une idée qui est vieille de 2 ans quand même, qui a mûri. Et puis jusqu'à un moment où on s'est dit, y en a 2 ou 3 qui ont dit, allez, boum, on tape du poing à la rentrée. On s'est appelé, allez, on monte le club. Et voilà, on a monté, on a regroupé tout le monde après avoir monté le club. Vraiment tous les profs. Et tout le monde a été OK. Hein.
C'est un club.
C'est plus que 5 clubs. Il y a tout le monde qui participe, hein, du Vaucluse. Hein, pratiquement 90% des clubs, ils participent.
Et à un moment, vous allez engager des athlètes sous cette effigie-là.
Ils sont tous licenciés. Tout ce que nous, on a voulu mettre. Moi, par exemple, j'en ai 5 d'entraigue. J'ai 3 cadets, 2 juniors qui sont dans le club. Après, tout ce qu'on voulu mettre, bon, moi, l'année prochaine, je mettrai un peu mes seniors que j'ai aujourd'hui. Et je pense qu'on aura des équipes qui tiendront dans la route, quoi. D'ailleurs, on a une équipe féminine cadette qui va faire les France première division cadette à la rentrée prochaine. Non, franchement, je pense que ça peut être une bonne chose.
Et ce nouveau club-là va disputer quel type de compétition? Parce que du coup, c'est plus Entraigue, c'est plus Les Angles, c'est plus Villeneuve, c'est...
En fait, on va les appeler, par exemple, un gamin qui fait un résultat, il aura marqué Vaucluse Grand Avignon Judo, un slash Entraigue, par exemple.
D'accord.
Ou Villeneuve, le nom de club apparaîtra systématiquement, comme on a fait avec l'OM. En fait, on s'est un peu appuyé sur mon expérience que j'ai de l'OM, quoi. Ou qu'il y avait un peu des creux, des choses qui n'allaient pas géniales, qu'on a pu corriger et qui, je pense, aujourd'hui, nous rendra encore peut-être plus fort que l'OM.
Oui, il faut rappeler quand même que c'est un club d'élite.
Ouais, c'est ça.
Bien sûr.
C'est,
en fait, contre
bien sûr.
Ce club-là.
Ouais,
c'est les meilleurs éléments de chaque club qui vont former une équipe, on va dire.
Là, aujourd'hui, il y a 60-70 licenciés à peu près. Et ça représente à peu près, on va dire, une quinzaine de clubs qui en ont mis au moins 5, 3, 4, 5, 6, voilà.
Et ça tire tout le monde vers le haut.
C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, quand on fait ces regroupements d'entraînement départementaux, on peut amener tout le monde. Pour faire goûter à ceux qui n'étaient pas motivés pour faire du haut niveau, à pouvoir se dire finalement...
Ça te permet en plus de tirer vers le haut
les autres dans ton
club en disant, regarde, si tu t'y files un petit peu, tu vas pouvoir intégrer ce groupe-là. Ouais. Et ça te permet de tirer tout le monde vers le haut.
C'est ça.
Bien vu.
C'est ça.
Bravo.
C'est ça. Et puis franchement, on a... Avec tous les profs qu'on est dans ce club, on se dit pas, lui va partir à tel club ou quoi. Aucune question se pose, quoi. Parce que bon, c'est vrai qu'on se voit tous les week-ends au bord des tapis. Parce qu'il faut pas rêver, ceux qui se sont impliqués, c'est ceux qui sont autant impliqués que moi.
Bien sûr, bien sûr.
Donc après, il y en a qui sont un peu moins impliqués, mais qui ont mis leurs élèves. Mais il y a aucun souci, quoi. Pour l'instant, il y a vraiment pas de souci. Au contraire.
Bon, là, question technique. Comment t'arrives à dormir? Comment t'arrives à avoir une activité en dehors du judo? Parce que entraîneur du Grand Avignon, entraîneur de Marseille, entraîneur de Machet, arbitre, formateur.
7 jours sur 7.
Tu rentres,
c'est ça,
tu
ouais.
rentres,
7 jours
tu
sur
rentres
7.
Chez toi des fois?
Oui, quand même. Non, mais bon, après, c'est vrai, j'ai une journée de travail. J'ai une journée de travail, et après, tous les soirs et les week-ends, c'est judo, quoi. Bon, après, ma famille sont judokas. Ma femme est présidente du comité.
D'accord.
Vice-présidente de la ligue. Mes filles ont fait du haut niveau, mes 3 filles. Bon, donc. On y a tous vécu dedans. Donc
tout le monde est sur le tatami. Donc en fait, quand ils se voient toute la journée.
Voilà.
Tous les soirs.
Non, mais
nous, on se voit autour d'une table. Eux, ils se voient autour d'un tatami.
C'est vrai.
Ouais. C'est le judo, c'est aussi ça. C'est redevenu un peu depuis Rinner. Là, c'est redevenu un peu bankable ou à la mode. Là, ça remet des gens sur le tatami. J'étais à l'inauguration du dojo à Mazan, il y a un mois. on voit plein de gamins de tous âges. Les parents remettent à nouveau leurs gamins au judo.
Remettre. Moi, franchement, en trek, j'ai jamais trop subi. Là où on a subi, c'est quand ils avaient fait ces interclasses là, le soir, là, leur garderie là, pour occuper que les enseignants, ils étaient. Comment ils appelaient ça déjà?
Les parascolaires ou.
Parascolaires.
Et ben là, on avait un peu souffert. On avait perdu 20-30 gamins quand même. Hein, parce que les parents, le soir, les gamins, c'était à peine après-midi de sport, ils les mettaient pas au judo le soir.
Bien sûr.
Et une fois que ça a été supprimé, boum, c'est reparti, quoi. C'est reparti.
Bon.
Après, le judo est bien réputé, bien reconnu.
C'est ça.
Franchement, ça fonctionne bien, quoi.
Et combien il y a de licenciés au club d'Entraigues?
Ça varie, hein. Moi, quand j'ai commencé en 89, il y a 8 gamins. Hein. Aujourd'hui, on tourne dans les 200, quoi. Dans les 200.
Combien de pratiquants sur le Vaucluse?
4005. À peu près. Ça varie après des années.
Ça fait rêver.
Ouais.
Bon, en tout cas, Philippe, l'heure tourne. Ouais. On va te libérer, à moins que tu veuilles rester avec nous. Tu es le bienvenu si tu veux.
Ouais, ça dure combien de temps encore?
On est là jusqu'à 19h. On va parler un petit peu de tout. Mais,
je vais rester avec vous alors.
Si tu veux rester avec nous, tu es le bienvenu.
Je veux bien entendre comment ça se passe ailleurs. On apprend tout le temps.
Tu verras avec Jérôme tout à l'heure, tu pourras lui poser la question.
On va te garder avec nous. On va passer une petite page musicale et puis on récupère Jérôme normalement dans 3 minutes.
J'ai tendance à braquer ce que j'aime par peur. Je commençais à m'y voir, alors je me suis vue ailleurs. Je t'ai pas trouvé de faille, maintenant je cherche dans les chansons qu'on chantait par cœur. Faut croire que j'avais le temps de changer, mais le temps m'a juste dépassé. Faut croire que j'avais le temps de changer. Je rentre chez moi, la fête est finie, j'ai plus personne avec qui danser. Jamais rien demandé. Tu sais, j'ai tendance à faire ce que je pensais pas mériter. Je commençais à y croire, alors j'ai tout balancé. T'as trouvé mes failles et moi je les cherche dans les chansons que j'ose plus chanter. Faut croire que j'avais le temps de changer, mais le temps m'a juste dépassé. Faut croire que j'avais le temps de changer. Je rentre chez moi, la fête est finie, j'ai plus personne avec qui danser.
Sur RTVFM.
Allez, de retour ici au studio pour la dernière partie de l'émission, la partie réservée un peu à tout.
Hein, oui, au résultat, à ton coup de gueule, à ton coup de cœur, à Jérôme, à tout le monde, quoi.
Ouais, magazine, si on a le temps, voilà. On verra. On va le faire au feeling, comme d'habitude. Valérie, à toi pour les résultats.
Oui, je vais commencer avec le basketball avec l'ABC de Carpentras. Hein. En U20 départemental, Carpentras se déplaçait au Thor et Carpentras s'est incliné 58 à 91. En U20 régional, Carpentras recevait Pernes et la Carpentras s'est encore inclinée 55 à 83. Je crois qu'on a Jérôme, donc je vais m'arrêter là, je reprendrai tout à l'heure.
Jérôme ?
Oui, je
vous entends.
Salut Jérôme, comment tu vas ?
Bonsoir, ben ça va très bien, merci.
Alors, bravo, t'as passé le cap cette année. L'an dernier, tu t'étais arrêté là. Et cette année, tu te qualifies pour les quarts ?
Ou non ? Non, pour les demi.
Pour les demi. Pour les demi, bravo, mes respects.
Oui, c'est on a pris notre revanche sur cette équipe qui nous avait éliminé la saison passée dans cette même coupe. Donc oui, on est satisfait puisque en début de saison c'était pas trop un objectif, mais vu au fur et à mesure l'effectif qu'on avait, c'était devenu un de nos objectifs. Donc on est content d'être qualifié pour la demi-finale.
Cette Coupe de France, Jérôme, on va l'appeler Coupe du Vaucluse, non, c'est ça?
Avec un ce serait dommage de se tirer en demi, même si ça ferait un beau match ou à la Roseraie ou à Georges Moreau. Maintenant, si je pouvais éviter de prendre un trégan en demi et pourquoi pas se retrouver en finale, ce serait que mieux. Maintenant, voilà, on va attendre le tirage tranquillement et on prendra de toute façon l'adversaire qui nous sera opposé en espérant qu'on va recevoir.
Ville Gaillenc ou le quatrième, on ne sait pas encore, quoi, pour l'instant.
Alors, le quatrième, on ne sait pas encore, soit Villefranche, soit Pia.
Là, ça va être un peu difficile.
Pia, ça serait bien, non, Jérôme ? Pour toi ?
Ouais, ce Pia, ça serait bien.
Un goût de revanche, non ?
Ouais, déjà, un goût de revanche, et deux, je pense que c'est des équipes. De toute façon, après la demi-finale, toutes les équipes sont difficiles. Maintenant, c'est sûr que Pia, on les a déjà jouées. On sait qu'on est capable de les battre. Maintenant, comme je dis, une demi-finale, ça va être un match compliqué. J'espère qu'on jouera surtout à domicile pour notre public et d'espérer de faire une finale de cette saison, puisque la dernière remonte à 2005, ça fait un peu loin.
Ah oui, ça serait une belle histoire, oui.
Il m'a semblé lire dans la presse ou entendre, je ne sais plus, que tu n'étais pas complètement satisfait du contenu, c'est vrai ? Du match d'hier ?
À la fin du match aux joueurs, on va pas se voiler la face, on est content d'être qualifié. Maintenant, c'est vrai que on a marqué 30 points en première mi-temps, mais on a quand même pas mis notre jeu en place comme je l'aurais souhaité. On a marqué beaucoup d'essais sur des exploits individuels de nos joueurs ou sur des fautes de défense de Toulon. Et après, en seconde mi-temps, j'avais demandé aux joueurs, justement, en menant 36, de se fixer des objectifs, c'est-à-dire de plus prendre de points et surtout plus faire de fautes de main. Et justement, on a fait peut-être le double de fautes de main qu'en première mi-temps et on concède un essai. Donc oui, c'est des matchs qui servent aussi à préparer la suite. Et sur ça, je ne suis pas satisfait depuis le début de la saison sur le contenu de nos matchs, même si les résultats sportifs sont là, mais dans le contenu on n'y est pas. On joue 40 minutes par dimanche et un match ça dure 80, donc quand ça va arriver dans les moments cruciaux en demi-finale ou le prochain match à Ville-Gaillenc, ça risque de nous faire drôle si on n'arrive pas à se concentrer pendant 80 minutes.
C'est récurrent un peu, Jérôme, ce problème là de jouer que des demi-matchs. On l'a vu déjà deux ou trois fois depuis le début de la saison, peut-être même plus, où ton équipe tient une mi-temps et après relâche complètement et part en sucette en deuxième mi-temps.
Ou l'inverse
d'ailleurs.
De toute façon c'est un tout, hein. C'était notre 9e match hier. J'ai fait un peu l'analyse de tout ça. Je pense avoir une discussion assez musclée avec les joueurs dans la semaine, puisque il y en a qui sont pas dans l'état d'esprit qu'il faut être pour jouer à ce niveau et surtout pour prétendre aller chercher le titre et la Coupe de France. Donc ça m'ennuie un peu. Il y a certains joueurs qui sont nonchalants et que ça commence un peu aussi à me faire monter la mayonnaise. Donc on va remettre les choses au point, je pense, jeudi, puisqu'on se réunit pour le repas de fin d'année. Et il faudra qu'on se dise les vérités et surtout qu'en seconde partie de championnat, on tire tous dans le même sens et qu'on se soude et qu'on s'unisse plus que ce qu'on est. L'an dernier, on avait une moins bonne équipe, mais on était beaucoup plus soudés. Cette année, on a une meilleure équipe, mais il manque le lien, il manque quelque chose. Donc je ne sais pas si c'est le fait qu'on ait beaucoup de nouveaux joueurs, je sais pas trop, donc voilà, c'est un peu ça qui me gêne, et ça me gêne depuis le début de la saison, mais là c'est vrai que je pensais arriver à trouver la solution plus rapidement, malheureusement je ne l'ai pas encore retrouvée. Après, comme j'ai dit dimanche dans les vestiaires, s'il faut que je me passe de certains joueurs, on a d'excellents juniors qui ont fait une très très grosse performance encore dimanche. Et ben, il y en a qui resteront à la maison et on jouera avec les juniors.
Ce problème d'implication là, Jérôme, tu l'avais diagnostiqué vachement tôt dans la saison, rappelle-toi, on en a parlé tous les deux quand j'étais venu te voir, et tu me disais déjà ça avant même que la saison commence, ça fait que confirmer finalement.
Ouais, voilà, tout à fait, ça fait que confirmer. Après, moi, comme je dis à certains joueurs, je pense qu'il y en a qui sont là pour, malheureusement, pour prendre 4 sous à la fin du mois, ils n'aiment pas le rugby. Quand je vois le match que nous a proposé I, même si c'est vrai qu'en seconde mi-temps, ils ont un peu explosé, que des joueurs comme Thibaut Margallet, qui joue au Dragon Catalan l'an dernier, jouent pour le maillot parce qu'ils ont ni prime ni fixe, ça donne à réfléchir un peu sur le comportement de certains de nos joueurs. Maintenant, voilà, c'est des grands garçons, je vais les mettre devant leurs responsabilités. Si le comportement de certains ne change pas, je les ai prévenus depuis un petit moment. Je me passerai de là. Dimanche, j'ai laissé les juniors à disposition des juniors puisqu'ils avaient un très gros match à gagner. Et maintenant, mais je sais qu'on peut compter sur 5-6 juniors qui ont le niveau pour jouer en Elite 2 sans aucun souci. Je vais rentrer en plus le petit Jim Serrano, je pense, en Coupe de France à Réalmont, qui lui sera encore aussi une plus-value pour notre groupe, même s'il est très jeune. Donc voilà, maintenant les places vont être chères et on jouera avec des gens qui ont envie de jouer, qui ont envie de tout donner pour Carpentras et non pas de jouer pour eux et pour pavoiser un peu le dimanche soir.
Un dernier mot, Jérôme, avant de te libérer, le programme là, c'est quoi ?
Ben là, le programme, on va s'entraîner cette semaine tranquillement. Après, on va avoir une semaine de repos. Et après, on va attaquer en janvier avec le match à Ville-de-Gaillen le 5 janvier. Et suivi du 16e de finale de Coupe de France à Réalmont. Et pour finir la phase aller la semaine après, à la Roseraie contre l'Escure.
Eh bien, écoute, bonnes vacances, Jérôme. Merci pour.
Merci beaucoup.
Merci pour ta dispo, encore une fois. Et puis,
à l'année prochaine.
On se reparle.
Et à l'année prochaine, c'est
on
ça.
On se reparle au mois de janvier.
Il n'y a pas de souci.
Salut Jérôme, bise.
À bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir.
Au revoir, bonne fête. Eh oui.
D'ailleurs, c'est notre dernière ce soir.
Oui, c'est notre dernière ce soir. Nous aussi, on prend quelques vacances.
On aurait dû déguiser oui. Théo en Père Noël.
En Théodore.
Ouais. Bon, allez, avec un os. Les résultats avant que Théo s'endorme.
Je vais continuer justement avec le rugby à 13, parce qu'on a parlé évidemment de l'équipe 1, mais il y avait aussi les gamins, les U18, qui se sont largement imposés aussi, ouais, 36 à 20 face aux 13 Real Monté. Donc là aussi, en quart de finale, belle performance aussi.
Ouais,
et ils sont invaincus. Hein.
Belle école l'équipe, de rugby Real Monté, toujours.
Oui, et Carpentras est invaincu aussi, hein, tout comme Montréalmont d'ailleurs. Donc ça va promettre. Donc il y avait aussi Entraigues qui s'est imposé lui aussi face à Salon sur le score de 24 à 14.
Ouais, toujours en quart de finale de la
Coupe de France.
Alors Coupe de France d'élite 2,
élite 2.
Mais la bonne surprise, c'est que il reste 4 équipes en lice. Carpentras et Entraigues en font partie. Ça pourrait faire une jolie finale à disputer au Parc des Sports, ça serait sympa.
Ouais, c'est clair.
Hein, toi, l'Entraiguois, ça ferait bien. Hein,
ouais, ça ferait. Et pourquoi pas Carpentras ? Comme ça, on pourrait le rediffuser en direct. Bon, sinon,
même au Parc
aussi.
Des Sports, on peut y aller.
Oui, on y a déjà été. Ça ne nous fait pas peur. Voilà. Allez, je continue avec le basket.
On était dans le rugby à 13. Signaler la superbe victoire d'Avignon qui est allé s'imposer à Toulouse sur le score de 56 à 10. Ouais. Jolie performance de mes copains du SOA. Par contre, nos amis du 13 fauteuil et Guillaume Motz et Yann Verdi, eux se sont inclinés dans le match de la saison. C'est toujours un énorme match entre le 13 fauteuil avignonnais et les Dragons. Les Avignonnais ont mené. Ils étaient devant encore jusqu'à pas très loin de la fin du match. Et puis les Catalans se sont imposés sur le score de 45 à 58. On s'en fout. Les Avignonnais gagneront les gros matchs, la Coupe de France et le championnat. Voilà,
gagneront les prochains.
Allez, la suite.
Allez, alors je reprends avec le basket. Hein. En senior fille, Carpentras donc se déplaçait, recevait pardon, la Barbière. Et la Barbière s'est imposée 58 à 45. En senior garçon, Carpentras se déplaçait à Fos et Carpentras s'est imposée 67 à 64. Enfin, en pré-national, Martigues recevait donc l'entente de Carpentras-Sorgues. Et c'est Martigues qui s'est imposée 55 à 48.
Tu suis un peu le basket, Philippe?
Je suis un peu obligé, j'ai un gendre qui fait du basket.
Qui joue?
À Sorgues.
Ah. Et en...
Mauvais temps cette année.
Bah justement, Sorgues qui se déplaçait au Canet pour la 12e journée s'est incliné 68 à 83.
Ouais, ça va de.
Ça va mal. Hein.
Ça va de pire en pire pour nos amis.
Sorgues est 13e au classement général avec 16 points. Seulement, il y a. 4 ou 5 équipes qui ont 16 points. Après, ça monte à 17 points, 18 points. Ils sont quand même les uns.
J'ai quand même dans l'idée que la saison du Sorgues Basket Club est un peu flinguée d'ores et déjà. Ah. Et que les nouveaux dirigeants de Sorgues n'ont pas bien pris conscience de ce qui se passait et de ce qu'il y avait à faire. Ils ont accepté une rétrogradation en National 2 alors que. Ils auraient pu, en faisant un petit effort, garder leur équipe en National 1. Et voilà. Le là, porte-drapeau du basket Vaucluse maintenant, c'est le SAP. C'est l'USAP maintenant même, Avignon-le-Ponté, qui a perdu à Saint-Mallier sur le score de 74 à 64. Mais l'USAP est 7e au classement. L'USAP qui est en train de construire un beau projet. Je ne sais pas si tu suis ça, Philippe, mais voilà, une gestion intelligente, bizarrement, d'un mec dont on ne s'attendait pas à ce que ça arrive, le président. C'est pas mon copain, donc voilà, c'est pas mon copain. Monsieur Martin, pour ne pas le citer. Mais en tout cas, il est super bien entouré. Il s'est entouré de Patrick Chen, l'ancien journaliste. D'accord. Et ça draine pas mal de beau monde. Et voilà, le projet est intéressant. Ils veulent monter en Pro B très vite.
D'accord, donc, c'est créé une bonne dynamique.
À suivre, en tout cas, il est largement capable de fédérer autour de lui, ce brave garçon.
Pour l'instant, ils sont quand même 7e, hein, avec 25 points à 5 points du premier. Donc,
c'est pas mal. C'est leur première saison en National 1. Rappelez qu'ils jouent en National 3 la saison dernière. Avec un entraîneur très très bon, François Sens, qui est juste un mec merveilleux. Et il a réussi à garder une ossature de joueurs qui était déjà là l'an dernier. Je pense notamment au petit Liorel qui avait évolué à l'époque à Sorgues du temps du SAP.
D'accord. Non, mais voilà. C'est pas mal.
Vous savez tout sur le basket, messieurs, dames.
Allez, je continue avec le hand, avec Mazan. En National 2, 8e journée, Plan de Cuc donc recevait Mazan. Et là, il y a eu égalité parfaite, 30 partout.
Ouais, petite déception pour les filles de Mazan qui avaient.
Elles auraient pu prétendre la 4e place, mais elles sont 5e ex aequo, c'est pas grave.
Ouais, elles avaient le ballon pour l'emporter, elles l'ont pas fait. C'est dommage parce que c'est des bons points qu'elle laisse partir. Ouais. Ça fait une paire d'ailleurs qu'elle laisse partir des bons résultats et faudrait pas que à la fin de l'année ça.
Ah oui, mais ça va être quand même assez compliqué.
Rappelez juste que l'an dernier à la même époque elles étaient complètement à la rue et qu'à partir du mois de janvier elles ont enchaîné un nombre de victoires incalculable donc. Croisons les doigts et qu'elle nous refasse la même cette année.
On espère pour eux. En moins de 18 ans, National Mazan-Sorgues donc s'incline face au leader invaincu de la poule Montpellier sur le score de 28 à 30. Au classement général, Mazan est 3e avec 22 points, à 2 petits points des deuxièmes, Toulon et des premières, Montpellier. Hein. Montpellier, on a dit invaincu hein, avec 30 points. Il y avait en pré-national Châteauneuf, donc recevait Mazan-Sorgues 24 à 26. En moins de 17 ans, Élite PACA, Mazan-Sorgues donc recevait Apte et l'emportait donc sur le score de 33 à 29. Et enfin, en moins de 15 ans, Élite PACA, Carpentras, Mazan, on va dire, recevait Saint-Raphaël 20 partout. Donc voilà. Allez, je continue avec le rugby à 15 en fédéral.
Ouais, on va terminer avec le rugby.
Vas-y. Donc je vais passer alors avant aux archers de Saint-Cyfrin.
Fais vite parce qu'on va se faire gronder.
Donc,
et comme moi, je n'ai pas le patron et moi cette année.
C'est pas grave, on est
ce
pas
soir.
Allez, ce week-end, donc, 16 archers de Saint-Siffrin se sont rendus à Morières-les-Avignon et réalisent 9 podiums individuels et 2 par équipe. Donc l'équipe féminine remporte la compétition et l'équipe homme finit deuxième en individuel dames. Emma Berling en junior et Magali Elelouette en senior 3 montent sur la plus haute marche du podium. Claire Passe en senior 1 monte sur la deuxième marche. Chiara Divita en minime et Valérie Sardin-Boucher se classent 5e. Côté masculin, les minimes Damien Brun montent sur la troisième marche du podium et Luca Pavani se classe 5e. En cadet, Mathis Tenon grimpe sur la deuxième marche du podium. En senior 1, c'est Cédric Noto qui se classe 5e. En senior 2, Benoît Bétron monte sur la première marche, accompagné de Christophe Sub sur la troisième marche. Luc Cochet, quant à lui, se classe 14e et Mathieu Tenon 17e. En senior 3, Jean-Denis Barthélémy mais termine 2e.
Oui.
Gérard Nari 4e. Et enfin, Mathieu Puig poursuit sa lancée et remporte une nouvelle compétition en catégorie cadet. Arcapouli. Non mais c'est bien.
Bravo Valérie.
Mais on a des bons champions là aussi.
Mais hein, oui, mais on ne parle pas assez de.
Ouais, des les archers, on les reçoit chaque année, ils sont contents et nous, on donne leur résultat.
D'ailleurs, on va les inviter très vite.
Voilà. En rugby à 15, Fédéral 1, poule 1.
2.
Non, poule 2, pardon. 12e journée, Bédaride hier, 22 à 20.
Ah oui. Quel
et
match.
Château Renard qui se déplaçait donc à Aubenas, lui s'est incliné 7 à 43. Hein. Il s'est pris une raclée.
Ouais, superbe match de la SBC. J'y étais forcément. La SBC qui a mené tout le long et qui a failli perdre ce match par la faute d'un arbitrage, comment on va dire, incohérent, on dit ça ?
Ouais, incohérent, ça arrive.
Ouais, ouais. Ou complètement abouti. Mais on va dire incohérent.
Incohérent.
Ouais. Voilà. Au classement général, Bédaride est 7e et Château Renard 9e.
Ouais, donc, la bonne nouvelle, c'est que sur ce coup-là, la SBC a définitivement validé son billet pour rejouer en Fédéral 1 la saison prochaine.
Ah.
C'est une excellente nouvelle. Je voulais te parler de la Fédérale 3. C'était aussi la dernière journée avant la trêve. Le Pontet est allé s'imposer 39 à 18 du côté de Monaco. Lille-sur-Sorgue a recevé Aix, le leader de la poule, et ils ont fait 20 à 20. Les Angles se sont imposés 43 à 6 contre le Mourillon. Et ça va d'ailleurs faire l'objet de mon coup de gueule du soir, Théo.
RTV Sport, le coup de gueule ou le coup de cœur.
Et bien ce soir, ça sera les deux. Ça sera le coup de gueule et le coup de cœur. Le coup de gueule, et bien pour ce match, les Angles, le Mourillon, c'est juste impossible à imaginer qu'une équipe varoise se déplace avec si peu de joueurs. Voilà, ça pourrit le championnat. C'est du grand n'importe quoi. En Fédéral 3, normalement, les clubs sont à peu près structurés. Ça aurait dû être un truc sympa ce match, les Angles contre le Mourillon. Le match a été arrêté à la 52e minute, faute de combattants. C'est juste un truc incroyable, Philippe, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve ça...
On se demande comment ça peut arriver. C'est comme si nous on allait à une compète et il n'y a pas de judo.
C'est ça, c'est exactement ça. Je pense que le club devrait être durement sanctionné par la Ligue. Et en tout cas, au moins pour l'exemple, ça ne devrait pas exister. Avant de nous quitter, juste un coup de cœur. Je voudrais rendre hommage à M. Peyralade, dirigeant de la SBC qui nous a quittés cette semaine. Un grand bienfaiteur du rugby à 15. Un ancien international de rugby à 13 aussi. Salut Roger, à bientôt.
Ouais.
Sur ces bonnes paroles, eh ben écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Rendez-vous le 5, me semble-t-il, ou le 6 janvier pour une nouvelle année de sport sur RTV. Merci Philippe de
Merci
ta présence.
Vous,
toujours un plaisir d'échanger avec toi. Merci Valérie pour ces 3 mois.
Voilà, c'était... passe de bonnes fêtes. Ne mange pas trop, ne bois pas trop.
Je vois pas de quoi tu parles. Merci Théo pour ta patience. Théo, hein, arrête-moi cette musique, j'ai le droit jusqu'à 19h05 ce soir. Valérie l'a fait la semaine dernière, j'ai le droit de le faire moi aussi.
Ah, il a regardé le chrono, tu as vu un
peu. Merci à tous, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et à très bientôt et joyeux Noël.